Bien, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être venus si nombreux ce soir pour ce sixième rendez-vous des Mardis d'eau. Merci également à celles et ceux qui nous regardent dans une autre salle du bâtiment derrière un écran. Désolé, effectivement, je m'excuse auprès d'eux, nous excusons auprès d'eux de ne pouvoir les accueillir dans cet amphithéâtre qui ce soir n'est pas suffisamment grand. Et alors juste une petite précision également, étant donné le nombre impressionnant d'auditeurs ce soir, la librairie associée, la librairie La Cavale, n'est pas accueillie aujourd'hui dans l'amphithéâtre, mais vous trouverez le dernier livre d'Emmanuel Todd et quelques-uns de ses livres précédents en bas dans le hall sur le stand de la librairie La Cavale. Bonsoir Emmanuel Todd.
Bonsoir.
Et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation du département de l'Hérault. Je rappelle que vous êtes historien, démographe et qu'au cœur de vos recherches depuis de nombreuses années, vous avez placé l'étude des systèmes de parenté, des systèmes familiaux qui jouent un rôle tellement décisif dans la constitution et dans l'évolution de nos croyances collectives, des religions, des idéologies politiques, mais également de nos comportements sociaux, culturels, électoraux, etc. Et vous avez bâti ainsi une œuvre puissamment originale, constituée de nombreux livres. Alors, je ne vais pas évidemment tous les citer, ni même en citer la moitié. Je citerai quelques titres récents. Il y a un peu plus d'une dizaine d'années après la démocratie chez Gallimard. Puis il y a eu le premier volume de votre origine des systèmes familiaux, toujours chez Gallimard. Là, c'était en 2011 ou 2012, je crois. 2011. Et puis...
C'est tout ce dont je me souviens, les dates de naissance de mes enfants, puis les bouquins.
Et puis, plus récemment encore, Qui est Charlie ? Alors là, c'était au Seuil, en 2015, Qui est Charlie ? Sociologie d'une crise religieuse. Et où en sommes-nous ? Une esquisse de l'histoire humaine. Là, c'était il y a 3 ans, toujours au Seuil, et c'est désormais en poche. Mais si nous vous recevons ce soir, c'est à l'occasion de la parution d'un nouveau livre. Alors, toujours au Seuil, Les luttes de classe en France au XXIe siècle. Un livre qui, évidemment, par son titre, fait un clin d'œil à appuyé à Marx, on en parlera peut-être tout à l'heure. Un livre que vous avez coécrit, on va le préciser tout de suite, avec l'aide, avec la collaboration de Baptiste Touvray. Dans ce livre, qui est un essai, là aussi, puissamment original, extrêmement tonique, très stimulant intellectuellement, vous essayez à dresser le paysage, l'état des lieux de la France sur ces 30 dernières années et des mutations, des évolutions très rapides qu'a connues la société française depuis le début des années 90. Ce n'est pas un hasard, évidemment, puisque 92, c'est Maastricht. Voilà, et jusqu'à maintenant, c'est-à-dire la France d'Emmanuel Macron et la France des Gilets jaunes qui, selon vous, ouvrent un nouveau cycle historique. Mais au-delà du tableau et de l'analyse de ce tableau et des conséquences de l'état de la France aujourd'hui, ce livre est également une entreprise de dévoilement des illusions et de ce que vous appelez la fausse conscience. Et vous serez sans doute amené à nous expliquer ce que vous entendez par là. Cette fausse conscience derrière laquelle se cache d'ailleurs inconsciemment chacune des classes sociales qui constituent notre pays. Dévoilement aussi parce que vous êtes amené dans ce livre à remettre en question et à vous inscrire en faux contre plusieurs idées fortes qui structurent le débat public et qui ont été popularisées ces dernières années. On va le voir, par exemple celle d'une archipélisation de la société française ou encore celle d'un accroissement inexorable des inégalités. Alors à l'origine de ce livre, et je vous prierai d'en commencer par là, je crois qu'il y a, on peut essayer de déterminer deux sentiments. Peut-être un sentiment d'urgence face à l'état de la société française et l'état de notre vie politique, mais également, une chose que je n'ai pas dite, si vous pouviez penser à mettre tous les téléphones sur silencieux, ça serait super. Merci beaucoup. Oui, la deuxième... je ne sais même plus où j'en étais, du coup.
C'est dommage, parce que oui. Tu étais très bon jusque-là.
Ah oui, c'est vrai qu'on se tutoie. Moi, je te vous vois depuis tout à l'heure. Bon, alors, du coup, mais alors là, je sais vraiment plus où j'en étais, et c'est très embêtant, mais si, ça y est, je sais où j'en suis, je sais exactement où j'en suis. Le deuxième sentiment, c'est le sentiment d'un étonnement face à un paradoxe. Ce paradoxe qui est celui d'un euro, d'une monnaie unique, dont tu déclares, postules, expliques qu'il est en situation d'échec et surtout qu'il a amené la société française et le pays dans un état de dégradation et d'échec. Et pourtant, et c'est là que réside ce paradoxe, jamais l'euro n'a été finalement aussi accepté. Jamais il n'a été aussi peu remis en question. Or, de manière très, très naïve, je vais faire l'imbécile et y réussir parfaitement. Qu'est-ce que...
Il est très bon.
Pourquoi tu postules l'échec de l'euro? Qu'est-ce qui te permet de dire, parce que alors, je pense qu'on est nombreux ici, à penser le contraire.
D'abord, commençons par l'euro. J'ai écrit un livre qui s'appelait « L'illusion économique », qui doit dater de 97 ou 98, dans lequel je disais que ça ne pouvait pas marcher. Ça n'a pas marché, il y a des indicateurs, mais fondamentalement, redémontrer pour la xème fois l'échec de l'euro n'est pas mon propos. C'est-à-dire, de toute façon, j'aurais pu aussi, on nous parle actuellement d'une baisse du taux de chômage, dont je parle comme allant arriver dans le livre d'ailleurs, qui va avec la désindustrialisation et qui accompagne la baisse du niveau de vie. Mais on est une société qui a vécu pendant des décennies avec 9 à 10% de chômage, ce qui n'est pas discuté et ce qui suffirait à définir, la France est un pays de l'Europe du Nord avancé, le pays comme en état de fausse conscience et de folie. Mais là, dans ce livre-là, je me suis simplement... Moi, il faut voir que je suis très patriote français, j'aime mon pays, il n'y a pas de problème, je suis capable de parler d'amour de la patrie à l'ancienne, ça ne me gêne pas du tout, mais 95% des bouquins que je lis sont en anglais. J'ai été formé à la recherche à Cambridge, en Angleterre, et donc quand on travaille comme ça, on a accès à la littérature mondiale sur l'euro, et l'idée que l'euro est un échec cuisant est juste l'opinion dominante. C'est-à-dire que les économistes américains pensent que l'euro a détruit les économies de l'Europe du Sud, dont celle de la France. Les patrons allemands pensent ça, ils le publient, je l'évoque un peu dans mon bouquin. Les économistes suédois, il y a une grande école d'économie suédoise, pensent ça, et c'est pour ça que les Suédois, à aucun prix, n'ont voulu rentrer dans l'euro. Et en vérité, la croyance des Français en un éventuel... Je ne parlerai pas succès, mais une éventuelle normalité de l'euro fait partie du problème. Mais ça n'est pas un problème économique, c'est un problème de pathologie socio-mentale pour moi. Vous voyez, c'est ça qu'il faut expliquer. Et donc j'y arrive, une analyse de toutes sortes de choses dont on va reparler. Je voudrais quand même réévoquer le sentiment d'urgence et la façon dont le livre a été fabriqué, qui est très particulière, en fait. Le sentiment d'urgence, il est venu de... je ne sais pas, je suis historien quand même, et l'instinct historique, on l'a ou on ne l'a pas. Quand je suis tombé... moi, mon premier livre, d'ailleurs, que j'ai écrit quand j'avais 25 ans, essai sur la décomposition de la sphère soviétique, la chute finale, j'avais fait un voyage en Hongrie, à la poursuite inutile d'une jeune Hongroise, d'ailleurs. C'est un des innombrables bides de mon existence. Et donc, je veux dire, on ne peut pas avoir tous les talents. Hein. Bon, et j'étais tombé sur la hausse du taux de mortalité infantile, russe, ukrainien, etc. Et je me suis dit, il se passe quelque chose, on est dans un basculement. À l'époque où tout le monde disait que l'Union soviétique allait envahir la planète entière, etc. Là, bon, il y a d'autres exemples comme ça. Même chose sur après l'Empire pour les États-Unis. Bon. Mais là, en fait, le phénomène gilet jaune, alors qu'il était visible et massif, c'est quand même, je veux dire, c'est même pas la peine d'avoir un gros instinct historique pour se rendre compte qu'il s'est passé quelque chose avec le phénomène gilet jaune qui a quand même cassé le gouvernement. Et je me suis dit, non, il se passe quelque chose. Il faut que je regarde. Je travaillais sur le néolithique européen à l'époque. Hein. Je me suis pris de passion pour le néolithique. 5000 ans d'histoire. C'est là-dessus que je travaille. J'étais plus tellement au fait de ce qui se passait. Et je me suis dit, non, mais il faut que je regarde les chiffres, il faut que je regarde ce qui se passe. J'étais résigné. Ce qui se passe est bizarre. Donc j'étais. Je suis là, mais quand on fait. C'était clair aussi que l'histoire allait très vite. Et donc qu'il fallait travailler très vite, en fait. Et pour travailler très vite tout seul. Moi, j'ai 68 ans, je suis à la retraite, je ne suis plus aussi rapide qu'autrefois. C'est pas la peine de se raconter d'histoire. Et puis d'ailleurs, même, je ne sais pas si un jeune aurait été tellement plus vite. Et j'ai pris le parti de ne pas travailler tout seul. J'avais pris l'habitude de faire des articles pour la revue Books avec un type qui s'appelle Baptiste Touvray. Et donc, on se retrouvait au Select à Paris. Je lui racontais un livre anglais ou américain que j'avais lu, puis il en tirait un article, puis je disais « ouais, c'est parfait ». Je le signais en disant que c'était bien lui qui avait apporté. Et je me suis dit « mais là, il faut qu'on essaye de faire le livre de cette manière-là ». Et donc, ça donnait... Alors, c'était un peu plus compliqué, hein, parce que faire un compte-rendu littéraire et écrire un livre sur la crise de la société française, c'est quand même pas le même exercice. Donc, on a eu un... Donc, ce qui se passait, c'est que je travaillais une semaine ou 15 jours sur un sujet, je balayais toutes les données. Ce qu'Internet peut faire, quoique retraité, je me suis adapté à Internet. Il y a des jeunes aujourd'hui qui apparemment sont moins adaptés que moi à Internet. Bon, non, je suis désolé, je ne pouvais pas m'empêcher, c'est très vilain. Ce qui se passe, c'est dégueulasse. Donc, vraiment, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Je vous prie de m'excuser. Je vous prie de m'excuser. Et donc... Et donc je balayais toutes les données, donc dans l'ordre évolution économique, évolution industrielle, évolution du niveau de vie, évolution des prix, évolution de la structure sociale, des mouvements des catégories socio-professionnelles, évolution du mouvement éducatif, et puis ensuite évolution mentale, évolution des taux de suicide. Avec en plus de ça des lectures de fond, c'est-à-dire des livres sur la critique des indicateurs de prix INSEE de Erlin. J'ai lu les bouquins d'Ehrenberg sur l'homme fatigué. Et puis ensuite, il fallait faire j'ai fait un récit, une partie historique de la pseudo-démocratie des années d'après la fondation de l'euro. Et puis la crise finale, ça fait beaucoup, beaucoup de travail. Et donc, ce qu'on faisait, c'est que je mettais dans ma tête ce qu'il fallait comme données, et puis je dictais à Baptiste, qui n'est pas un petit calibre. Hein. D'abord, il connaît tous mes livres par cœur. C'est un normalien Ulm. C'est pas, il écrit des romans. Enfin, c'est un calibre aussi. Enfin, faut voir les. C'est pas juste. Voilà. Et donc, je lui dictais ça, et puis il me faisait une première mise en forme. Chapitre par chapitre, je lui faisais une conférence de 2-3 heures par chapitre, que je ne regardais pas. J'ai regardé à la moitié, j'ai tout réécrit à la moitié. Et puis la deuxième moitié du livre, j'ai aussi tout réécrit. Donc je n'ai pas réécrit chapitre par chapitre. Mais ça a donné un rythme particulier. Et puis, c'est surtout, je m'étais rendu compte que quand je faisais des conférences avant, il me venait des idées que je n'avais pas quand j'écrivais directement. Donc ce n'est pas juste un gain de rapidité. C'est que ça, ce que je le dis dans l'intro, il y a quelque chose de libération de l'esprit dans le fait de délivrer une analyse à l'oral. Mais il y a d'autres choses dans ce livre. C'est un livre que j'ai écrit moi, avec l'aide de Baptiste, il a peut-être 37, 38 ans, j'en sais rien. Voilà. Mais j'ai aussi été aidé par d'autres personnes, je le dis. C'est-à-dire que c'est... un jour, je fais une conférence, un débat avec Marcel Gauchet, où je me lamente de ne pas trouver tel ou tel type de données. Et puis, je reçois une lettre où un jeune géographe me dit « Mais moi, j'ai des cartes des gilets jaunes, d'après l'analyse des groupes Facebook. Est-ce que ça vous intéresse ?» Tu parles que ça m'intéresse. Voilà. Donc il y a des cartes complètement originales, du moins, où un type me dit, sorti d'une conférence, la même d'ailleurs, me dit, sur les banlieues, les gens disent n'importe quoi. Les banlieues n'étaient pas du tout hostiles aux gilets jaunes, comme l'étaient comme ils étaient au mouvement Charlie, en fait. C'était tout à fait autre chose. Donc je lui dis, mais c'est bien de me le dire, mais il faut me le prouver. Il me revient avec un mémoire de 40 pages d'interviews de gens des banlieues et d'analyse du rap pour montrer des choses. Je n'étais pas tout seul. Même Ehrenberg, ce psychologue ou sociologue faisant une sorte de socio-psychologie que je ne connaissais pas, j'étais allé voir mes petits-enfants et ma fille Marie m'a dit « Tu devrais lire Ehrenberg, ça t'intéresserait, je suis sûr. » Donc, enfin, j'ai absolument pas l'impression d'avoir travaillé tout seul. Et j'ai beaucoup travaillé avec des gens beaucoup plus jeunes que moi. La technologie statistique que j'utilise, j'ai été aussi aidé par un type extrêmement compétent, etc. Donc, il y a un élément, comment dire, de rapide et collé. Alors, ce qui reste, le livre est bizarre parce que d'un côté, il est super sérieux, avec des analyses de corrélation. Pour une fois, j'ai bien expliqué ce que ça voulait dire. Il y a des cartes, il y a des graphiques, il y a des trucs tout à fait étonnants. Vraiment, c'est de la recherche. Donc on voit, par exemple, le truc le plus stupéfiant pour moi, c'est que vous regardez la télé, vous avez l'impression, quand on vous parle de suicide, que tout le monde est en train de sauter par la fenêtre. Hein ? Et la vérité, c'est que les chiffres de suicide sont en effondrement. Le niveau de vie baisse, le taux de suicide baisse. C'est des choses qu'il faut expliquer et qui sont expliquées dans le livre. Mais voilà.
Mais alors, on y reviendra. Mais avant cela, j'ai l'impression que ces recherches, ces discussions et ce chantier d'écriture...
Ah oui, ce que je voulais dire, c'est que j'ai quand même laissé plein de blagues idiotes dans le livre.
C'était ce que je voulais dire quand je disais tonique.
Tonique, oui, on appelle ça, il est très poli.
Voilà. Ces recherches t'ont amené à un certain nombre de surprises, de découvertes, ouais. Et en particulier même à la remise en cause d'un certain nombre d'idées ou d'hypothèses que tu avais eues précédemment. Il en serait fini de la bonne vieille polarisation française entre son centre et sa périphérie, qui était au cœur de pas mal de tes travaux. La France serait devenue homogène.
Alors, c'est vrai qu'une bonne partie de mon travail, depuis que j'avais fait avec Hervé Le Bras l'invention de la France, en 1981, quelquefois quand je dis j'ai écrit un livre en 1981, ça me fait peur de donner cette date. En fait, j'en ai déjà fait un en 76, donc c'est encore plus terrifiant. Voilà. L'une des choses qui était frappante dans le cas de la France, c'était qu'il y avait une géographie familiale et religieuse qui se combinait. C'est-à-dire que les structures familiales servent de pivot à la géographie religieuse qui déborde par des phénomènes de diffusion. Mais moi, mon truc, c'était plutôt les structures familiales. J'ai fait ma thèse à Cambridge sur les structures familiales. Le seul domaine dans lequel je n'accepterai jamais... Dans le domaine des structures familiales, je veux bien me tromper, mais je dois être le premier à trouver l'erreur. Vous voyez ? C'est ça, la règle. Voilà. Sur les autres domaines, si c'est un autre qui voit que j'ai écrit une bêtise, ça ne me dérange pas du tout. Sur les structures familiales, je serais vraiment vexé si je ne suis pas le premier à voir l'erreur. Mais donc, il y avait cette diversité tout à fait étonnante et dont, je dirais, le symbole... c'est une diversité organisée autour d'une polarité. La polarité, c'est un bassin parisien libéral égalitaire, famille nucléaire égalitaire, et un sud-ouest, mettons centré sur Toulouse, avec la famille souche. C'est-à-dire un système à maison, l'hostal, primogéniture masculine... Et ce qui rendait facile de démontrer la persistance de cette polarité, c'était que les régions de France continuaient à produire des indicateurs de fécondité, des nombres d'enfants par femme très différents. Deux ou plus au nord, bassin parisien, et 1,5, parfois 1,4 dans le sud-ouest. Alors, ça n'est pas parce que les gens du Sud-Ouest avaient remplacé l'héritier unique par le fils unique. Hein. C'est que le statut des femmes était différent, puis les gens de familles souches du Midi faisaient plus d'études et que ça faisait baisser la fécondité. Mais c'était un modèle très puissant parce que les pays de familles souches comme l'Allemagne ou le Japon faisaient du 1,4, 1,5. Et les pays de familles nucléaires comme l'Angleterre ou les États-Unis faisaient du 2. Donc on pouvait dire, mais à l'intérieur de la France, il y a autant de... Voilà. Et là, en fait, je me suis aperçu que ça n'était plus vrai. Donc pour moi, je suis furieux. L'autre jour, j'ai fait un exposé à Auch, dans le Gers. Et j'ai oublié de dire que c'était la hausse de la fécondité dans le Gers qui m'avait fait basculer dans une vision nouvelle des structures familiales françaises actuelles. J'y étais et j'ai oublié de le dire. C'est vraiment affreux. Alors, honnêtement, je pense j'aurais pu le voir plus tôt. Vous voyez, dans Le Mystère français, le bouquin que j'avais fait avec Le Braz, les chiffres étaient déjà là. Mais je ne l'avais pas vu pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il y avait une technique d'analyse de la fécondité au niveau communal lycée, mise au point par Hervé, qui rendait les choses moins visibles. Et la deuxième raison pour laquelle je n'avais pas vu cette homogénéisation, c'est que c'est Hervé qui s'était occupé de la fécondité dans ce bouquin. Voilà. Donc, mais c'est très... Alors, par contre, la vraie question qui est posée, c'est que... Donc, si vous avez... Imaginez une France où vous avez, en simplifiant énormément, un cœur libéral égalitaire, avec la façade méditerranéenne. Montpellier va être typiquement... Je sais que la plupart des Montpelliérains ne sont plus du tout de Montpellier, donc ça n'a plus aucune importance, mais je veux dire... Il y a une sorte de... Montpellier, c'est une sorte de pointe qui arrive. Donc, si on regarde vers les Cévennes, on a la famille Souche. Et puis, si on regarde vers la côte, on a l'autre système. Donc, Montpellier, c'est pas comme Toulouse. C'est pas bon pour que les gens les aient éclairs sur le sujet, hein, dans mon souvenir. Mais imaginez, vous avez, en simplifiant, un centre libéral égalitaire, une façade méditerranéenne libérale égalitaire, et puis une périphérie hors côte méditerranéenne, plus autoritaire, inégalitaire, hiérarchique. Donc vous dites, ah ben, on ne voit plus la différence maintenant. Mais qu'est-ce que ça veut dire en termes de valeur ? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, l'hypothèse que je fais, mais ça n'est qu'une hypothèse, c'est que l'un des bouleversements que la France a vécu dans la dernière période, c'est le développement des études supérieures, et une sorte de nouveau tri de la société par les études supérieures. Et ce qui me... Enfin, c'est une hypothèse. Hein. Bon, dans un jeu télévisé, je dirais c'est ça. Mais là, on n'est pas dans un jeu télévisé. Donc je dis c'est une hypothèse. C'est que les valeurs autoritaires et inégalitaires se sont concentrées dans le tiers supérieur de la société, et les valeurs libérales égalitaires se sont diffusées dans le tiers inférieur, mais sur toute la surface du territoire. Alors, où est la limite ? Vous voyez, j'ai laissé le tiers du milieu, mais quand vous en arrivez à analyser le mouvement des Gilets jaunes, qui effectivement s'est déplacé dans l'espace national comme s'il n'y avait plus de région, ben vous pouvez dire, ben ça marche bien, le libéralisme égalitaire, les gilets jaunes y étaient. Et pour la rigidification hiérarchique et un peu méprisante du tiers supérieur éduqué de la société, plus une sympathie mal définie, ben vous l'aviez partout sur le territoire. Donc ça marche assez bien. Mais c'est des questions de recherche. Et en fait, le livre ne cherche pas à dire... C'est comme ça, j'ai raison. Enfin, c'est vraiment cet effet très vite, je pense, enfin, de mon point de vue, assez honnêtement. Et je pense que des gens peuvent lire des choses différentes dans le livre, en fait, et s'intéresser à des choses différentes.
Alors, tu as commencé à en parler. J'aimerais qu'on approfondisse la question, effectivement, des différentes classes sociales qui, selon toi, désormais composent cette société française. Je vais les énumérer et peut-être que tu peux les commenter au fur et à mesure.
Avec plaisir. Tu pars d'en bas ou d'en haut ?
D'en haut.
Très bien.
Alors, tout en haut, à la pointe...
Commençons par les plus bêtes.
Une aristocratie stato-financière.
Oui. Alors, ma terminologie est quand même... Je me suis beaucoup inspiré du 18 Brumaire de Marx. C'est une interprétation assez... j'ai eu une très bonne culture marxiste. J'ai commencé mon enfance politique au Parti communiste. Donc, je suis un marxiste plus solide qu'il n'apparaît dans le livre, en fait. Si je veux. Les structures familiales, c'est le contraire du marxisme. Mais je connais bien, quand même, en fait... Et donc, aristocratie stato-financière, c'était, ça renvoie à ce que Marx on appellera l'aristocratie financière. Mais je pense que l'une des grandes illusions, c'est l'un des deux dévoilements fondamentaux du bouquin. C'est-à-dire, et c'est essentiel si les Français veulent s'organiser pour se sortir de l'impasse où ils sont. C'est-à-dire que si on écoute le discours critique, contestataire, etc., on va avoir des gens qui vous parlent d'un affreux néolibéralisme. Le néolibéralisme est affreux, pas de problème. Il a même mené les États-Unis à des hausses de mortalité. Et les Anglais ne se sentent pas très bien non plus. Donc je ne suis pas du tout en train de dire que le néolibéralisme est super génial. Mais en France, ce n'est pas ça qu'on a. On n'a pas la montée des inégalités qui va avec le néolibéralisme. C'est-à-dire les 1 ou 0,1% d'en haut, oui, sans doute un peu, mais les 10, 20% qui ont aussi décroché du reste de la structure sociale dans le monde anglo-américain, ça n'est pas le cas ici. Et puis surtout, les gens qui sont aux commandes en France ne sont pas des vrais capitalistes. Ce sont des types qui sortent de l'ENA, de la botte de l'ENA, qui, dans leur tête, se pensent néolibéraux. Ils veulent privatiser, ils veulent vendre les aéroports, ils veulent flexibiliser le marché du travail. Mais en fait, quand vous avez fait l'ENA, vous ne savez pas ce que c'est que l'économie réelle. Vous voyez ? En fait, ce sont des hauts fonctionnaires qui ont une mentalité de fonctionnaire. Et d'ailleurs, l'euro est une monnaie de fonctionnaires, de gens qui pensent que l'État peut décider ce qu'est la monnaie quel que soit le pays. Et donc, on a une classe supérieure, aristocratie stato-financière, qui est en état de fausse conscience absolue. Et Macron, qu'on nous a vendu comme le candidat de la Startup Nation, etc., est juste un haut fonctionnaire. Le fait qu'il soit passé par la banque ne change rien. Je veux dire, pour lui, être banquier, ça doit être faire des tours de table. Et la vie de tous ces gens, donc les banques sont dominées par l'État, donc vous avez, bon, prenez l'inspection des finances, les mecs qui sortent dans la botte de l'ENA, et ils sont jeunes, donc ils entrent dans la fonction publique en faisant de la vérif, c'est-à-dire en vérifiant que les comptes sont équilibrés, et puis ils vont à Bercy, puis quand ils sont grands et s'ils ont été sages, enfin, encore plus sage, parce que pour rentrer à l'ENA et arriver là, il faut déjà être assez sage au départ. Je suis sûr. Bon, et ben, leurs aînés qui ont été faire de l'argent dans la banque, une banque qui a été nationalisée, puis privatisée par Bercy, en fait, etc., les appellent, et donc ils vont faire de l'argent. Donc, ce qu'ils pensent être le capitalisme, c'est aller se faire de l'argent aux frais de l'État. Ça s'appelle pas le capitalisme, ça s'appelle la corruption. C'est tout à fait autre chose comme concept, vous voyez, c'est bien. Et donc, puis ensuite, en fin de carrière, ils vont se remettre au chaud dans le secteur public. Et donc, c'est pour ça que je les appelle aristocratie stato-financière. Mais j'ai fini par percer le moyen ultime de la dysfonction éducative majeure du système français. Regardez, mais il faut accepter ce que j'évoquais au début, l'axiome de ce que l'euro ne fonctionne pas. 10%, 9% de chômage pendant des décennies, tout le monde est d'accord à l'extérieur. L'euro ne fonctionne pas. L'euro est une monnaie antilibérale, un truc de fonctionnaire. Mais si vous voulez rentrer à l'euro, à l'ENA, Quel beau lapsus. Si vous voulez rentrer à l'ENA, essayez de rentrer à l'ENA en disant « l'euro ne fonctionne pas ». Donc, en fait, il y a un filtre pour que à l'ENA ne soient recrutés que les plus bêtes. Vous voyez ? C'est devenu un filtre technique pour s'assurer qu'aucune personne ayant un cerveau critique et souple n'atteigne le haut de l'ENA. C'est-à-dire notre classe dirigeante est recrutée pour être la plus bête du monde. Exceptionnel. Ça va pour l'aristocratie statofinancière ?
Oui, et c'est à peu près 1%. C'est 1%. C'est
Je ne les ai pas comptés. Les inspecteurs des finances, c'est 0,1%. Non, mais il y a des vrais riches qui font de l'argent. Il y a des Bernard Arnault. Je ne suis pas aveugle à la diversité des choses. Ce que je veux dire, c'est les gens qui sont aux commandes en France, ça n'est pas le secteur privé. Les gens du MEDEF sont des nains. Et de toute façon, tout ce qu'ils font à cause de l'euro, ils voudraient privatiser, ils voudraient une société civile vibrante, pour faire anglais, vibrant, c'est le truc de néolibéralisme, etc. Mais comme ils ont fabriqué une monnaie qui détruit tout, vous avez ce paradoxe français fondamental d'avoir une caste dirigeante de hauts fonctionnaires qui voudrait faire de la France un pays ultralibéral et qui, comme ils détruisent toute l'économie réelle autour d'eux, aboutissent à la montée en puissance relative de l'État sans arrêt. Donc on a un État de plus en plus puissant, mais ça ne va plus être un État qui s'occupe de... Ça ne va plus être l'État social. On laisse les hôpitaux dans un état épouvantable. Ça va être un État répressif. Ça va être l'État de la justice, de la police, etc. Donc on est dans une société qui s'étatise grâce à un projet néolibéral mal compris.
Un État réduit à sa force brute. Un État réduit à sa force brute.
Oui, bah l'État, il est double. Il y a l'État autorité, monopole de la violence, j'ose plus dire légitime au stade actuel. Et puis, il y a l'État social. Il y a une sorte d'ambivalence de l'État. Et la période actuelle, c'est la réduction de l'État social permanente avec la montée en puissance d'un État brutal, en fait, géré par ces types incompétents.
Alors on va descendre un peu.
Chaque fois que j'en arrive à ce stade de mon exposé, j'ai peur pour mon fils aîné qui vit en Angleterre et qui devrait m'accueillir comme réfugié si ça tournait mal. Et je suis sûr qu'il est terrorisé. Pardon.
Alors, en dessous, il y a la petite bourgeoisie CPIS.
Alors, deuxième fausse conscience fondamentale, qui est fabriquée par le système éducatif, je crois. C'est-à-dire que dans mon livre, j'ai un jeu sans arrêt entre les catégories de Marx, ou peut-être l'ironie de Marx, la cruauté de Marx, et quand même les nomenclatures socio-professionnelles de l'INSEE. Et donc, il y a une catégorie qui sont très fortes, c'est les cadres et professions intellectuelles supérieures, qui représentent 19 à 20% de la population. Il y a le mot « supérieur » dedans. Cadre, ça évoque quelque chose. Et bien entendu, c'est ces catégories dont je suis la trajectoire politique depuis 2002. Je crois dans le bouquin, j'ai trois petits jolis tableaux qui ont l'air simples, mais qui m'ont coûté une quantité de travail considérable, en fait. Et donc, c'était une catégorie qui avait une branche privée, une branche publique. Donc, la branche publique était plutôt à droite. La branche privée était plutôt à droite, la branche publique plutôt socialiste. Donc on voit quelques oscillations, puis zut, à la fin on voit tout le monde qui vote Macron, enfin pas tout le monde, mais le vote le plus fréquent qui vote Macron, mais que je définis moi comme une... Et qui sont la réalité des winners selon Macron. C'est les gens, donc vous avez les losers, c'est les prolos qui votent pour le FN. Alors je continue à parler de CSP, catégorie socio-professionnelle, alors que je devrais dire PCF, PCF, enfin je me comprends. Et, et, Et je continue à dire Front National plutôt que Rassemblement National, parce que comme je ne vois toujours pas ce qu'il rassemble, parce qu'il continue à diviser la société française, je les appellerai toujours FN jusqu'à mon dernier souffle. Vous voyez, vraiment, c'est une obligation morale. Comme j'avais dit dans un accès mystique, j'avais dit les appeler Rassemblement National, c'est un péché, alors que je ne suis pas croyant. Voilà. Et donc, vous avez cette catégorie qui vote Macron, et en fait, le vote Macron, qui venait beaucoup du PS, a été...
Mais il y a qui dans cette catégorie ?
Eh bien, vous avez les cadres, les professions intellectuelles, supérieures, etc. Mais vous avez, comment dire, il y avait encore, pour le vote Macron de la présidentielle, il y avait un biais secteur public. C'est-à-dire que les profs, j'ai un tableau complet des profs, alors tout le monde... m'oppose à Fourquet, l'auteur de L'Archipel français. Mais je donne, comme il disait à la télé, le dessous des cartes. Fourquet est un super copain. On n'est certainement pas d'accord en termes interprétatifs, mais on a des rapports de coopération statistique et intellectuelle. Et donc, je veux dire, le mec le plus cité de mon bouquin, c'est Fourquet. J'avais dit, tu vas voir Jérôme, je ne suis pas d'accord avec toi, mais je te cite encore plus que Marx. Non. Parce que c'est le meilleur sondeur d'opinion, et donc il a deux sondages d'opinion formidables, un sur les profs, un sur les gendarmes. Bon, situé en termes de catégorie. Et donc, les agrégés ont voté Macron à 50%. Les certifier un peu moins, et puis quand on descend les hiérarchies scolaires, etc., ça tombe un peu, mais les enseignants ont énormément voté Macron. Et honnêtement, quand on voit ce qu'est l'évolution des salaires des enseignants dans les 20 dernières années, et quand on compare les salaires des enseignants français à leurs homologues d'Europe du Nord, je veux dire, on ne peut parler que de fausse conscience. C'est-à-dire, se penser comme winner avec un salaire de certifié, c'est juste au-delà de la... Vous voyez ? Et donc, évidemment, c'est une fausse conscience qui est quand même ancrée dans quelque chose qui a été important et qui l'est de moins en moins, qui est la stratification éducative. C'est vrai que les gens qui ont fait des études supérieures ont fini par se penser supérieurs. Et il y a eu une époque où avoir fait des études supérieures... vous mettez dans une position économique supérieure. Mais ce qui est caractéristique de la période actuelle, c'est que bon, ça permet d'avoir un taux de chômage moindre, d'avoir fait des études supérieures. Mais plus on est jeune, plus c'est dur, et ça n'est plus un vrai privilège. Et donc je pense que la compétition fondamentale, dans la tête de cette catégorie qui est stratégique, alors moi je l'appelle petite bourgeoisie CPIS, toujours, c'est ma classe. Je n'insulte personne, c'est ma classe. J'ai fait une carrière de fonctionnaire, directeur de bibliothèque, avec un salaire extrêmement médiocre, parce qu'on n'a pas voulu de moi comme chercheur. Donc il n'y a pas de problème. Simplement, moi, je ne suis pas en état de fausse conscience. Je sais quel est mon niveau de retraite. Il ne me viendrait pas à l'idée de me penser milliardaire planétaire. Il n'y a pas de question. Voilà. Et donc... Et alors là, c'est depuis, dans le livre, je présente ce groupe comme en état de fausse conscience, mais ce qui est fantastique, et c'est là que se justifie le fait que le livre ait été fait très rapidement avec un sentiment d'accélération de l'histoire, c'est qu'après s'être attaqué au bas de la structure sociale avec ses taxes carburant, notre énarchie dont on ne comprend plus très bien, j'espère qu'on parlera de ses motivations profondes ensuite, et être vaincu par les Gilets jaunes et par l'arrivée d'une violence défensive au cœur de Paris, avec la réforme des retraites, bon, évidemment, cette énarchie s'attaque à tout le monde, mais s'attaque aussi au sentiment de sécurité du corps enseignant. Et donc, tout se met à bouger très vite. Et je ne saurais pas dire actuellement ce qu'est l'état de conscience du corps enseignant sur la situation actuelle. Ça va vraiment trop vite maintenant.
D'ailleurs, déjà, lors des européennes, le vote avait déjà bougé,
Ah bah, c'est-à-dire que les Européennes ont quand même, à mon avis, mais le mouvement européen ne s'est pas fait sur la base de l'émergence de... Il n'y avait pas eu encore d'attaque économique dans cette classe, mais les violences, la violence du gouvernement Macron a créé un niveau clivage moral, je dirais. Je dirais pour beaucoup de gens. C'est-à-dire que la question de savoir si c'était plus grave de casser une vitrine ou d'arracher un œil a été posée à tous les Français. Et il y a une bonne partie de l'électorat macroniste, la partie la plus sympa de mon point de vue, effectivement, qui a considéré quand même que casser une vitrine, ce n'était pas l'affaire du siècle, et qu'arracher un œil ou une main, c'était plus grave. Et je n'ai pas les chiffres, mais je suis prêt à parier que le corps enseignant a pas mal bougé sur la question.
Alors, en dessous de cette petite bourgeoisie CPIS, il y a, ben, il y a une grande majorité. Ça représente quoi, 50% environ ?
La majorité, en fait.
La majorité atomisée.
Majorité atomisée invisible, c'est-à-dire que là, le modèle va contre la représentation politico-sociale qu'on cherche à nous vendre à chaque élection. Et je ne pense pas qu'on va arriver à nous la vendre au moment des municipales qui sont en train de se dissoudre dans toutes sortes de directions. Je ne recommence pas. Mais à la présidentielle, on s'en sait parti. Hein. On va essayer de nous revendre la polarité Macron sauveur de la liberté. Marine Le Pen menace contre la République. Alors, c'est, au niveau politique, c'est totalement absurde, puisque même la dernière fois, à eux deux, ils faisaient 45% des voix. Donc, il y avait 55% des voix dont on a pu, qui se dispersent sur tout le Vraise, dont on a constaté la dispersion au moment des européennes. Mais là, on voit déjà toute la mécanique qui se met en place pour nous revendre le même truc. Donc on va voir, ben là, je vois Macron est parti en guerre contre le communautarisme. Donc moi, je suis là, intellectuel prospectiviste, disant non, non, l'important, c'est la baisse du niveau de vie, c'est la lutte des classes qui monte, etc. Et donc, vous avez le président qui lutte contre le communautarisme, Marine Le Pen, mais en fait, on atteint un stade où leur complicité devient tellement évidente que c'en est presque ridicule. Ma mère était publicitaire. Jamais elle aurait osé faire une campagne comme ça. Et pourtant, elle se définissait comme la reine des lessives. Vous voyez, c'est ce qu'il y a de plus dur, les lessives, pour les publicitaires, parce qu'elles sont toutes pareilles. Vous voyez, donc il faut faire des différenciations. Donc si vous voyez Marine Le Pen et Macron comme deux lessives à vendre, ça devient de plus en plus difficile de les différencier. Ce qu'ils ont en commun, la théorie du dépassement droite-gauche, la violence verbale, le mépris... Enfin, bon, je vous laisse imaginer tout le reste, c'est pas... Mais quand on descend au niveau... Je reviens à ta question. Quand on descend au niveau de la structure sociale... On avait, sous Macron, je parle de l'élection présidentielle, la petite bourgeoisie CPS comme pivot, et sous Marine Le Pen, le monde ouvrier. 50% des ouvriers français, pas d'origine étrangère récente, c'est-à-dire pas d'origine maghrébine ou africaine, etc., votent Le Pen. Mais ça, c'est des catégories qui, en fait, se réduisent. La classe ouvrière diminue en termes de masse sans arrêt. La petite bourgeoisie CPIS, en dehors du fait qu'elle s'appauvrit, elle perd ses enfants qui s'en sortent de moins en moins bien. C'est-à-dire qu'ils font des études de plus en plus longues qui suffisent à peine à les protéger du chômage. Et ce qu'on ne voit pas, donc, c'est dans la structure sociale, c'est un énorme bloc de 50%. Formé, alors je centre sur les professions intermédiaires, qui sont l'une des catégories qui a le plus gonflé depuis 1992, qui l'a emporté depuis en termes de masse sur le monde ouvrier, et qui a, je dirais, qui présente plusieurs particularités très intéressantes. C'est un monde qui, alors j'ai rajouté les petits commerçants, les employés qualifiés, puisque la nomenclature de l'INSEE permet de distinguer les employés qualifiés, etc. C'est un monde qui n'a pas conscience d'exister, qui n'a pas de représentation politique, mais qui est le lieu des évolutions sociétales, pour le coup, de mœurs, les plus rapides. C'est la petite bourgeoisie. Alors, l'aristocratie stato-financière reste assez masculine. La petite bourgeoisie, CPIS, est encore un peu masculine. Le prolétariat, qui est en dessous, je ne sais pas plus dedans, est tout à fait masculin. Mais les catégories intermédiaires sont à dominante féminine. Si vous prenez des paramètres de modernité psychosociale, alors l'homosexualité est moins situable socialement maintenant. C'est assez uniforme, mais vous aurez une incidence quand même un peu supérieure dans ce groupe central atomisé. Vous voyez, vous avez... Et donc, je pense que l'une des choses qui explique le désarroi de la France, la désorganisation du système politique, c'est que le groupe le plus important en termes de masse, et où se sont passées et se passent les évolutions culturelles les plus importantes, est très neuf et n'a aucune conscience de soi. Eux, ils ne sont pas dans la fausse conscience, ils sont dans la... je devrais dire elle d'ailleurs, dans la non-conscience. Mais encore une fois, tout peut bouger très vite. La crise autour de l'hôpital, c'est-à-dire la tentative de destruction du système hospitalier par notre aristocratie stato-financière. En plus, là, ça présente un intérêt parce que ça fait bouger en même temps toutes sortes de strates, les médecins, les infirmières... Tout va très vite, même, je dirais, depuis la sortie du livre. Je trouve que le livre est un bon cadre pour suivre ce qui se passe. Mais en fait, je devrais déjà rajouter 2 chapitres si j'étais sérieux dans le livre, tellement ça va vite maintenant.
Et pour finir, le prolétariat, mais...
Bah, le prolétariat, c'est le...
C'est 30%.
C'est 30%, donc j'ai rajouté dedans les employés non qualifiés. En fait, il faudrait faire des distinctions régionales, puisque le prolétariat des zones industrielles dévastées du Nord-Est a une histoire. Et c'est cette partie du prolétariat qui est en fait entrée dans une habitude de voter pour le FN, qui est une attitude de refus. Donc, Zemmour a fait un papier... ahurissant sur mon livre. Non, mais pas antipathique, en fait, parce que... Je veux dire, parce que, non, avec Zemmour, on a pris l'habitude de s'insulter avec cordialité. je dirais... vraiment, c'est l'insulte zen. Et donc bon. Évidemment, s'il y a la guerre civile, je l'étrangle. Hein. Il y a pas, c'est autre chose. Non, c'est une blague. C'est une blague. De toute façon, il n'est pas bien lourd. Hein. Bon, enfin... Non, je suis désolé. C'est la fatigue. Et donc, je n'ai pas dit ça pour mon procès. Je retire tout ça. Je regrette. Bon, et... c'est la fatigue. Et donc... Il dit que je montre une... Donc je parle de l'enfermement du vote Front National dans ces milieux comme d'un refus quiétiste du monde des dominants, en fait. Comme une sorte de... Et que si on oubliait le fait, la dimension xénophobe du vote Front National, je dirais, on pourrait même... trouver dans ce refus quelque chose d'admirable. Et Zemmour se dit, mais Todd montre par certains moments, une empathie absolument incroyable vis-à-vis de ce monde. Mais c'est vrai, en fait, je suis assez empathique. Je pense que mon empathie maximale est vis-à-vis des souffrances psychiques des classes supérieures, dont je pense qu'elles vont vraiment pas bien dans leur tête. Mais
on va y venir, oui.
L'empathie est mon message.
Alors, juste avant de faire un peu de psychopathologie, une question quand même. Il est bien question de ruissellement dans ce livre, mais oui. Pas du ruissellement souhaité, qui serait le ruissellement de la richesse. Tu théorises un ruissellement du mépris, une cascade du mépris qui irait de...
Une nouvelle théorie du ruissellement. D'ailleurs, je pense que l'expression est de Baptiste. Parce que Baptiste a rajouté quelques bonnes blagues. Je ne vois pas pourquoi je m'en serais privé. Non, mais c'est un exemple. Je donne un exemple du caractère coopératif. Parce que je me suis dit, je n'ai pas le souvenir d'avoir sorti un truc aussi bon comme expression. Ça doit venir d'ailleurs, et il y avait que lui, donc ça doit être lui. Il faudra que je vérifie. Oui, c'est-à-dire que ce qui caractérise la structure sociale actuelle, c'est que, en fait... Il y en a qui sont dans la fausse conscience. Je dirais que le prolétariat est dans une conscience suicidaire puisque son vote Front National ne sert à rien. Il y en a qui sont dans la non-conscience. Mais si on laisse, si on oublie cette espèce de masse centrale dont on ne sait pas trop ce qu'elle est, ce qui est vraiment frappant, c'est la façon dont j'ai généralisé la théorie du petit blanc. Vous savez, le petit blanc, c'est le type qui se sent pas bien, qui est économiquement exploité, et puis qui se retourne contre les noirs pour se faire les nerfs. Et donc, il y a des gens... Alors, je ne sais pas comment ils sont arrivés à se convaincre de ce que les gens d'origine maghrébine étaient noirs, ce qui ne me frappe pas du tout. vu que moi-même, je ne me pense pas noir et dans la guerre d'Algérie, quand j'étais enfant, tout le monde me traitait de salbico. Donc, en fait, mais quand même, bon, petite théorie du petit blanc, on la garde. Et donc vous avez théorie du petit blanc au premier degré, c'est vous avez les ouvriers français qui se sentent pas bien et qui se retournent contre pas simplement les immigrés d'origine maghrébine, mais les immigrés d'origine maghrébine, leurs enfants, leurs petits-enfants, enfin, ça n'en finit pas maintenant. Hein. Bientôt, ça va être contre mes propres petits-enfants, puisque j'ai trois petits-enfants qui ont un père d'origine algérienne, donc ça commence à devenir n'importe quoi. Premier degré. Voilà. Et puis, il y a, mais peut-être premier degré, le deuxième, plus on monte, plus c'est intéressant. Au-dessus, vous prenez les petits bourgeois CPIS. Qui se pensent winners, mais en fait, c'est pas très clair quand on voit leurs revenus. Je ne sais pas s'il y a des certifiés dans la salle. C'est pas possible qu'il n'y en ait pas. Je veux dire, ils sont le cœur de la nation. J'ai même vécu avec l'une d'elles. Plus maintenant. Mais, bon, pardon ? Voilà, non, mais je ne voulais pas de... c'est l'intimité. Bon, Et donc dans ces, mais je pense pas que aux grands enseignants, etc. Mais je pense à des cadres du privé qui vivent dans des open space où ils peuvent plus donner un coup de fil en privé, où ça devient impossible d'appeler tranquillement sa maîtresse ou son amant, enfin avec des conditions de travail très dégradées par rapport à autrefois. Je parle en retraité de tout, moi. Hein. Je ne suis pas dans la vantardise, je suis dans la nostalgie. Je veux qu'il n'y ait pas de malentendu. Et donc, je suis désolé, je ne sais pas ce que j'ai ce soir, c'est pas grave. Bon, je sens un public bienveillant. Et donc, ce groupe se sent mal, et je pense qu'une partie de son malaise est converti en mépris du prolo français. Pas simplement du Front National ou du prolo qui vote Front National, mais donc le prolo qui vote Front National devient le noir d'un petit blanc au deuxième degré. Vous voyez ? Et donc, l'important, Et surtout que c'est une classe, on est dans un monde sans perspective. Je parle beaucoup de la disparition du religieux, des idéologies qui dépendaient contradictoirement du religieux. On est dans un monde qui ne va pas bien psychologiquement. L'individualisme à tout cran, ça ne va pas le faire. Je suis content d'avoir fait une remarque un peu légère sur les maîtresses et les amants pour montrer que je ne suis pas dans le puritanisme. Ce n'est pas ça du tout. Bon, mais bon, quand même. Mais bon, l'absence de croyance collective, de foi en quoi que ce soit, c'est un problème. Et c'est pas souvent un problème chez les gens éduqués. Donc on se retourne. Petit blanc au deuxième degré qui se retourne contre le Front National et dont la détestation de ce que représente le Front National et son électorat devient une motivation en soi. Et alors ça m'est apparu, j'ai déterré un coefficient de corrélation entre le vote Macron et le vote Le Pen, tout à fait stupéfiant, qui est la découverte statistique fondamentale du bouquin. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier du coefficient de corrélation, et je vous assure qu'on peut vivre sans des vies très complètes, mais quand on est statisticien, il vaut mieux maîtriser. Donc c'est un indicateur qui varie entre moins 1 et plus 1. Plus vous êtes proche de 1, plus les deux variables sont associées et varient ensemble. Si c'est plus 1, c'est corrélation positive. Si c'est moins 1, c'est corrélation négative. Mais en sciences sociales, quand on a 0,65, on est déjà bien content. À 0,80, c'est trop génial. Et si c'est au-dessus, j'étais arrivé à la conclusion qu'on avait fait une erreur et qu'on avait mesuré le même phénomène de deux façons différentes et que c'était une pseudo-corrélation. Mais si vous prenez le vote Marine Le Pen, pourquoi j'allais dire Elisabeth Macron ? Bon, je sais pas pourquoi. C'est très curieux. C'est le gratisme qui progresse à toute vitesse. Voilà. Et non, mais vraiment, sincèrement, ça n'a pas de sens. Je suis juste très inquiet pour moi-même. Et donc. Ah oui, c'est parce que je ne veux pas l'appeler Emmanuel. Ça me fait trop de mal. Voilà. Donc j'ai pris un autre mot qui commençait par E. Et j'avais du mal parce que c'est une blessure personnelle. Et donc. Et là, vous trouvez moins 0,93. C'est inimaginable pour un statisticien de métier de sciences sociales. C'est-à-dire, ça veut dire que pour avoir la variance expliquée donc, au niveau départemental, ça veut dire qu'en fait, si on vous donne le vote Le Pen d'un département, vous pouvez quasiment dire ce que sera le vote Macron. C'est-à-dire, ça fait 85 ou 86% de variance expliquée. Et comme le vote Le Pen est antérieur, Le Pen 2012, Le Pen 2017, coefficient de corrélation de 0,98. Normal, corrélé avec soi-même. Donc, vous savez que c'est le vote Front National qui existe. Et donc, vous avez la preuve que les gens qui ont voté Macron, vous pouvez comprendre pourquoi. Moi, j'écoutais Macron, je ne comprenais pas, il disait rien, en fait. Il parlait tout seul pendant la campagne électorale. Il n'avait pas de projet. J'ai lu son livre, il n'y a rien dedans. Vous voyez ? Et quand même, il y a eu un vote. Et ce vote a eu un sens, une cartographie. Et cette cartographie était simplement le double négatif du vote Front National. Au premier tour, à une époque où il n'y a pas de risque de vote Front National. Et ça, à l'instinct, je reconnais qu'il y a un peu d'instinct là-dedans. Pour moi, ça a été le premier avertisseur du fait que le vote Macron et le vote Le Pen étaient la même chose, à un niveau profond. C'était la même chose. Une chose, pour moi, j'ai une règle absolue dans l'existence, une chose et son contraire sont très proches. Et ça n'est pas de la dialectique marxiste. C'est plutôt du Sacha Guitry. Dire le contraire de la vérité, c'est de l'approcher de très près, mais de dos. Je crois que c'est... Et donc, voilà. Et donc ensuite, on fait la liste de ce qu'ils ont en commun. La théorie du dépassement droite-gauche. Mais le clivage droite-gauche, c'est la démocratie. L'autoritarisme, la violence, Benalla. Et puis au final, je le dis tout de suite avant d'oublier, parce que c'est devenu de plus en plus important. Donc, vous voyez, ce qu'on essaie de nous vendre dans nos postes de télévision ou de radio, c'est un affrontement horizontal entre Macron et Le Pen. D'accord ? Bon. Le Pen, c'est la menace contre la démocratie. Macron, c'est la défense de la démocratie. Ce qui est une blague. Comme l'euro empêche toute action gouvernementale efficace dans le domaine économique, il n'y a déjà plus de démocratie représentative. Il n'y a plus de démocratie à défendre, il n'y en a plus. On peut parler, on peut raconter ce qu'on veut, mais on ne peut rien faire. Donc il n'y a plus de démocratie à défendre. Voilà. Et donc on nous vend cet affrontement titanesque. Mais moi, depuis que j'ai vu encore les études de Fourquet, et pas sur les profs, que les gendarmes votaient à 50% pour le Front National, et une fois qu'on a constaté... Alors, honnêtement, la police, ça ne doit pas être mieux. Hein. Enfin, je ne peux pas imaginer comment ça serait possible que ça soit mieux. Si vous dites que vous avez une haute administration qui prend des mesures de destruction de la société civile d'un type ou d'un autre, et qui, face aux révoltes de la population, utilise une police qui, donc, cogne pour Macron et vote pour Le Pen, je veux dire, vous avez une vision tout à fait différente de la société politique française. Vous pouvez voter, mais ça n'aura aucune importance à cause de l'euro. Hein ? Et donc, on vous prendra des mesures de destruction de vos retraites, on vous enverra la police, etc. Mais ça sera une police envoyée par Macron, mais qui ira ensuite voter pour le Front National. Donc vous avez une vision verticalisée de la politique française qui me semble beaucoup plus réaliste que ce qu'on cherche à nous vendre dans le poste. Ça, c'est de la sociologie, c'est pas du complotisme.
Alors je vois qu'on est en train de complètement déraper au niveau du temps.
Oui.
Mais
c'était bien, non ?
Ah, mais c'était super. Mais... Mais un petit mot quand même sur l'irruption dans le jeu politique et social des Gilets jaunes, dont tu as dit qu'ils t'avaient rendu la fierté d'être français.
Oui, mais en discutant avec une journaliste du Nouvel Observateur, qui a fait une très bonne interview de moi, Marie Lemonnier, je me suis rendu compte que c'était encore plus fort que la fierté. C'est-à-dire que avant les Gilets jaunes, vraiment, j'étais. Moi, il faut voir que je vis un peu avec les yeux sur le monde anglo-américain, quand même. J'ai un fils en Angleterre. La famille de ma mère était réfugiée aux États-Unis pendant la guerre. Donc, je voyais les Anglais qui avaient voté le Brexit, qui repartaient, qui avaient la livre sterling de toute façon. Jamais les élites anglaises n'auraient eu le rêve de devenir des élites allemandes, comme les nôtres. Vous voyez, les complexes d'infériorité sont renversés. Nous, on a des élites qui ont un complexe d'infériorité parce qu'elles ne sont pas allemandes. Mais les Anglais, non. Ils ont juste un sentiment tout à fait naturel de supériorité vis-à-vis des élites allemandes. Et historiquement, c'est les élites allemandes qui ont un complexe d'infériorité vis-à-vis des élites anglaises. Parce que l'Angleterre, elle, a réussi à construire un empire qui a duré et a donné sa langue au monde. Et donc, je me revois encore le matin, je vois où j'étais assis quand j'ai vu les résultats du Brexit. C'était comme si le monde renaissait, mais de l'autre côté de la Manche. Donc, en France, j'étais vraiment très abattu par cette passivité. Je me disais, mais... Et avec les Gilets jaunes, c'est pas que j'ai retrouvé fierté d'être français. Fierté, c'est ce que j'ai dit à la télévision. C'est, je me suis dit, mais j'habite toujours chez moi. Et c'est beaucoup plus fort comme sentiment. Je suis toujours en France, chez moi. C'est mon pays. C'est comme ça. On a des mecs pas contents qui se lèvent et qui font plier le gouvernement. Ça m'a donné un sentiment de sécurité psychologique. Pas juste de fierté, c'est beaucoup plus fort.
Il y a plein de questions qu'on n'a pas abordées, par exemple l'éducation ou par exemple l'état psychopathologique de l'individu contemporain ces 30 dernières années. Peut-être qu'on pourra le faire à travers les questions du public, mais avant, tu veux rajouter un mot ?
Non, ben, soit je réponds tout de suite, soit j'essaye de le loger dans une question du public.
On va essayer cette technique. Comme ça, on vous laisse un petit peu la parole parce que j'imagine qu'il y aura des questions. Est-ce qu'on a des micros, mesdames, s'il vous plaît ? Et surtout, est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Le micro arrive. Le micro arrive, monsieur. Là, tout de suite, le monsieur. Je vais peut-être vous passer le mien.
Bonsoir, Monsieur Todd, bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, je ne sais pas si c'est le cas d'autres personnes ici, mais moi j'attends avec gourmandise votre réponse à l'INSEE.
Ah, l'INSEE. Alors, oui, c'est très... Oui, ben, je suis ravi que vous évoquiez la chose, puisque moi, dans mon livre, j'ai un paragraphe qui s'appelle « Oser dire non à l'INSEE », puisque l'INSEE... un indice des prix qui me paraît sous-estimer la hausse des prix et qui, bien entendu, permet de ne pas voir ce qui est évident pour 60% des Français, à savoir qu'on est entré dans une phase de baisse du niveau de vie. Donc, dans mon bouquin, j'approche le problème en deux temps. D'abord, j'ai repris les choses qui sont dans le bouquin de Erlin, qui s'appelle « Le grand mensonge », dans lequel il note la façon dont l'INSEE utilise des effets qualité et sous-estime le coût du logement d'une façon absolument dramatique, etc. Et puis, et donc je valide, et en plus, il y a quelques très très beaux calculs de Erlin, dont on n'a pas le temps de parler, mais une belle inventivité dans l'interprétation de données brutes sur le coût des valeurs automobiles à l'Argus. Enfin, on sent un mec qui aime bien les stats, quoi. Mais moi, ça ne me suffit pas et j'ai toujours pensé que les statistiques démographiques étaient plus fiables. Donc j'ai fait toujours un contrôle externe. Et donc je parle aussi des premières oscillations à la hausse du taux de mortalité infantile qu'on peut observer en France. Je donne une carte du taux de mortalité infantile qui commence à avoir un sens en France. Pas des aléas, c'est les zones du nord-est qui ne vont pas bien. Je note, c'est aussi des chiffres INSEE démographiques, mais les chiffres démographiques, on ne peut pas les trafiquer parce que tout ce qui naît doit mourir et ça crée un principe de cohérence, certes regrettable pour les individus, mais qui est à la base d'un sentiment de sécurité pour les démographes. Puisque si un type, si on sous-estime un taux de mortalité, bah, y a un mec qui va manquer à l'arrivée. Vous voyez, donc c'est très... On voit aussi la baisse de la fécondité dans les années récentes. D'abord le quartile inférieur, puis le suivant, qui touche tous les groupes. Enfin, on voit plein de mouvements... Tout l'un des thèmes du livre, c'est les phénomènes de mouvement qui touchent toutes les catégories sociales de façon parallèle, indifférenciée, que ce soit la baisse du niveau éducatif, la baisse du niveau de vie, la baisse de la fécondité. Donc voilà, nous en sommes là. Et donc je me dis, bon, bah, faut accepter la réalité. Et puis de toute façon, en tant qu'historien... interpréter le mouvement des gilets jaunes sur la base d'une augmentation du niveau de vie, je vais avoir du mal. Hein ? Donc c'est ce principe de cohérence factuelle. Et donc je dis, oser dire non à l'INSEE. Et puis bon, c'est dans le livre, voilà. Très bien, tranquille. Et c'est un milieu que je connais bien, l'INSEE, l'INED, l'Institut national d'études démographiques, est une sorte de micro-structure qui avait des rapports, pas organiques, mais l'un des mecs qui est dans la direction de l'INSEE, qui lui, que je n'attaque pas du tout, est le type qui, quand il était à l'INED, a fini par me faire comprendre quelle était la différence entre la descendance finale et l'indicateur conjoncturel de fécondité. Donc c'est un milieu de proche pour moi. Et donc là, je vois avec ravissement l'INSEE publier un blog. Alors j'ai pas compris si le blog existait vraiment avant de me répondre ou s'il a été créé pour me répondre. Ce qui évidemment, parce qu'il y a deux articles dedans qui semblent antérieurs, mais ma vanité naturelle préférait que l'INSEE ait fait un blog juste pour m'emmerder moi. Vous voyez, ça serait formidable. Donc il y a une sorte de note, longue note, faite par un second couteau qui commence par « Oui, effectivement. » Alors, il s'abrite derrière toutes sortes d'instituts internationaux, de règles internationales. Alors, on se demande comment ils ont pu les suivre toutes à la fois, mais c'est comme ça. Et puis ils disent « Oui, effectivement, 6% seulement pour le prix du logement dans l'évolution des prix, c'est un peu surprenant au premier abord. » Mais alors ensuite, ils découpent en tranches. Alors, il y a les locataires du parc HLM, il y a les locataires du parc privé, il y a les accédants à la propriété, il y a les propriétaires. Bon, alors les accédants à la propriété, leurs emprunts, ça ne vaut pas parce que c'est un investissement en capital, donc ça ne compte pas. Vous voyez, c'est réaliste comme truc, super réaliste. Et donc, quand on regarde ces chiffres, donc j'étais très content parce que je vous invite à aller regarder ce blog de l'INSEE. Vous verrez comment vous vous faites enfumer. Oui, mais on peut accepter, on pourrait considérer que ce blog et cet article dit quelque chose d'intéressant à deux conditions. Alors d'abord, il faudrait partir du principe que la France est une société de caste où les gens ne changent jamais de catégorie statistique. Hein ? Et puis, une société qui ignore l'économie de marché et qui ignore l'existence d'un marché général du logement, etc. Donc, en fait, je pense que c'est un indicateur qui aurait présenté un certain intérêt dans l'Union soviétique de Léonid Brejnev. Voilà. Mais ça, c'est du détail et ce n'est pas mon sujet. Ce dont je suis vraiment content, c'est que ça venait pas du tout de l'INSEE en général, qui est rempli de gens très bien, qui n'ont souvent pas le droit de faire leur boulot correctement. Parce que l'INSEE, je l'analyse dans le bouquin, c'est une branche du ministère des Finances. C'est pas un truc indépendant, c'est une direction du ministère des Finances. C'est des mecs qui... Et j'avais déjà eu des expériences du temps où Montebourg était ministre de l'économie. J'avais, par un copain, essayé d'obtenir certains résultats de l'INSEE. Bon, je ne suis pas à l'aveugle dans ce truc-là. Mais donc ça vient de la direction de l'INSEE. Et donc, je me dis, tiens, je n'avais pas pensé à voir qui était la direction de l'INSEE en ce moment. Oui, il y a des trémolos sur l'indépendance de l'Institut aussi, au début de cette note. Et donc je vais voir Wikipédia, hein, un instrument de recherche indispensable. Et je vois directeur de l'INSEE, Jean-Luc Tavernier. C'est le mec qui fait les trémolos sur l'indépendance, présenté par le CE, là, c'est ça, comme... Maintenant, ça continue, la polémique. Les vrais experts répondent aux amateurs. Les vrais experts. Et je vois Jean-Luc Tavernier, l'un des co-auteurs du programme économique de Sarkozy. Donc, vous voyez, on est en pleine objectivité scientifique. Vous voyez, voilà. Et puis, encore plus fort, je retrouve une vieille connaissance. Je pense que j'avais polémiqué avec elle chez TADI, mais je ne me souviens plus très bien. Je réclame toujours le privilège de l'âge quand je ne suis plus trop raccord. Karine Berger. Alors, Karine Berger, ça, c'était secrétariat général de l'INSEE. Alors ça, pour moi, c'était magique. C'était magique d'abord parce qu'elle a grenouillé au Parti socialiste tant qu'il fallait. Qu'elle a écrit un livre, comme je l'ai déjà dit à la procure, qui s'appelait, écrit en 2011, « Les 30 glorieuses sont devant nous ». Donc, vous voyez qui est fiable en tant que prospectiviste. Il y avait un co-auteur, hein, une co-autrice, etc. J'ai dû le racheter depuis parce que, comme j'avais dit, c'était tellement bête que je l'ai jeté. C'est rare que je jette un livre, mais je ne sais pas. Mais là, ce qui était magique pour l'objectivité, c'était que dans mon livre, je mets la date 2007 comme une date tournant, et pas simplement à cause de la grande récession, mais parce que c'est l'année où les AGF ont été rachetés par le groupe Allianz. Et quand on sait ce que sont les maisons d'assurance en France, quand j'étais à Sciences Po, car oui, j'ai fait Sciences Po, les investisseurs institutionnels, c'est quasiment... on est très proche de l'appareil d'État. Voyez. Et donc je dis, c'est une année décisive, c'est le moment où l'Allemagne se connecte directement sur l'appareil d'État français. Bingo ! Karine Berger a quitté... Alors, Tavernier et elle ont la formation classique X, enfin Polytechnique, ENSAE, qui est l'école de statistique de l'INSEE. Enfin, ils ont la formation. Hein. J'ai pas dit qu'ils ne savaient pas faire des statistiques. Hein. C'est pas la question. Mais elle a été faire un tour dans le privé pour une filiale du groupe Allianz. Donc, l'objectivité des gens qui sont à la tête de l'INSEE, directeur général et secrétariat général, c'est un sarkozyste notoire et deux, une socialiste qui a été se faire un peu d'argent de poche dans la filiale d'un groupe allemand. Et ensuite, vous avez dans la presse, repris dans la presse ou sur BFM TV, des gens qui vous disent les vrais, les experts, entre parenthèses, les vrais, répondent aux fantaisistes, ou je ne sais pas comment ils disent. Alors que moi, je termine avec une retraite misérable, avoir écrit des statistiques, j'en fais depuis que je suis à Cambridge. J'ai écrit des livres de 500, 700 pages. Voilà. On est dans un monde de fous. Mais je suis vraiment très content que l'INSEE soit sorti, d'autant plus qu'il faut garder, il faut penser à l'INSEE. Je voudrais que vous sortiez de cette conférence, oubliez-moi, mais pensez que chaque fois que vous entendez parler de l'INSEE, ça devient quelque chose de capital. Et pourquoi c'est capital ? Parce que nous avons eu ce spectacle magique de notre Premier ministre, nous disant qu'on allait changer de système pour définir la valeur du point de retraite et qu'on allait utiliser pour l'indexer, le fixer, je ne sais comment dire, un indicateur de l'INSEE qui n'existe pas encore. Vous voyez ? Donc, surveiller l'INSEE. Je veux dire, je pense que bientôt, on va devoir aller faire des manifs à l'INSEE. Ce n'est pas un appel à la subversion. Mais je veux dire qu'on est au gouvernement. Et alors, quand j'ai vu... Je réponds longuement à votre question parce que ça m'a énormément amusé. Ça m'a énormément amusé. C'est que moi, je suis tricard à France Inter. C'est-à-dire... l'INSEE, c'est l'information d'État dans le domaine statistique. Ils font des trucs super bien. Hein. Je le dis dans le livre. Les chiffres eux-mêmes... Alors, je dis, les chiffres eux-mêmes ne sont jamais trafiqués. Là, j'ai un petit doute, tout d'un coup, hein, pour les indicateurs de prix. Mais les chiffres démographiques sont vraiment... C'est très bien. Alors, ils ont une façon d'habiller les résultats sur la contribution des immigrés à la fécondité, qui est... Mais je connais personnellement le mec qui a lancé ça. Je ne donne pas de nom, hein, mais c'est l'INED. Hein, donc... Je vous le dirai en cachette, ceux qui viennent. Bon. Et donc, je ne sais plus ce que j'allais dire. Je suis désolé. Ça me met dans une telle... Qu'est-ce que je disais ? Oui, et donc, moi, donc, l'INSEE, c'est l'information statistique d'État. France Inter, et un petit peu moins France Culture, c'est l'information politique et culturelle d'État. Vous voyez, quand j'étais jeune, c'était France Culture, c'était la radio pour intellectuels, pour chercheurs, tous indépendamment des opinions politiques. Donc maintenant, je sais que France Culture, je n'y accède ben, que quand il y a un mouvement subversif. C'est-à-dire que quand il y a eu les Gilets jaunes, on m'a invité à France Inter, ça branlait dans le manche. Avec les grèves sur les retraites, et ben, Guillaume Herner, c'était peut-être lui aussi la fois d'avant, m'a invité à France Inter. Alors, il était un petit peu dur à mépriser. France Culture. Mépriser, quel lapsus. Non, mais il n'était pas pire que la plupart des journalistes qui vous interrompent tout le temps. Là, c'était particulièrement pénible parce qu'il n'avait pas lu le livre et il voulait parler d'un autre. Donc, c'était très difficile d'arriver à en placer une. Mais pour atteindre France Inter, j'avais dû mettre au point une technique tout à fait spécial. Pour mon précédent livre, qui n'était pas particulièrement polémique, sauf que j'expliquais le phénomène Trump en disant pas simplement qu'il était monstrueux, mais que ça pouvait s'expliquer par la hausse de la mortalité aux États-Unis. Et France Inter m'avait décommandé 3 émissions. Et donc là, pour les mettre sous contrainte, j'ai accepté d'aller chez Ruquier. Ah, on n'est pas couché, ce que j'avais toujours refusé. Donc, je me suis fait insulter par Romain Goupy et une autre dame qui était là. Alors, j'étais d'une sérénité qui m'a moi-même étonné. Et donc, je me suis demandé à la sortie si je n'avais pas fait à mon propre insu un léger AVC. Mais vous savez, la règle à la télé, dans ce truc comme ça, c'est le mec qui sourit à gagner, en fait. Donc, voilà. Et alors, une fois que c'était fait, ben, c'était plus possible d'annuler cette merveilleuse émission que j'ai faite avec Ali Badou. Et puis Gilles Finkelstein, et puis Natacha Polony. Enfin, si Natacha Polony n'avait pas été là, je pense que je me serais effondré quand même. Mais j'ai dû affronter un Ali Badou déchaîné, le visage rempli de haine, et qui m'accusait sans arrêt d'avoir employé le mot fascistoïde à propos de Macron. Donc j'essayais de... Mais je l'ai maté. Hein. Je l'ai maté. Honnêtement, je peux le dire. C'est rare, d'habitude, je suis assez mauvais. Là, je ne sais pas, ça doit être... Peut-être c'est l'effondrement plutôt de mon taux de testostérone qui me rend calme, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il n'était pas bien à la fin. Mais quand même, il avait un comportement. Je n'ai pas eu la présence d'esprit de le dire, mais le problème, ce n'est pas le mot fasciste dans mon livre, c'est que vous avez un comportement de fasciste sur l'antenne. Vous voyez ? Mais... Et là, ensuite, quand j'ai vu France Inter prendre la défense de l'INSEE, c'est-à-dire quand vous voyez tous les instruments de l'État d'information qui se donnent la main les uns aux autres, mais vous dites, on est dans quel pays, là ? C'est quoi, la France ? Ça devient sérieux, en fait. Là, je rigole, je fais des blagues, parce que je suis à la retraite et je m'en fous. Mais vous imaginez ce que c'est pour les jeunes qui ont des carrières à mener et qui doivent faire attention ? C'est affreux. C'est juste affreux.
Tu vas avoir 5 minutes pour répondre à une deuxième et dernière question. Et après, vous pourrez retrouver Emmanuel Todd, qui signera ses livres.
Quel bel exemple de logorée du vieillard. Mais, mais honnêtement, avec le président qu'on a, si vous pensez au grand débat, je suis très en deçà de ce qu'il est capable de faire.
Est-ce qu'on a une deuxième question ?
Oui, ici.
Ah ben voilà, il était déjà là.
Je suis désolé, on va rester sur l'INSEE. Donc vous allez pouvoir creuser la question.
Oh ben non, peut-être c'est un peu dur là. Non, pour...
C'est pas de problème. Sinon j'aurais d'autres questions, mais elles sont moins précises. Là, elle était... Si vous voulez faire autre chose que l'INSEE...
Non, il n'y a pas que l'INSEE dans la vie quand même.
Moi, je vous propose poser une autre question et vous viendrez poser la question INSEE en privé après.
Ouais. Très bien, on fera comme ça. Mais sinon, j'avais une autre question également. C'était une question terminologique sur... vous employez une de vos thèses centrales dans votre livre. C'est le fait que c'est l'État, en fait, qui domine, ou plutôt la classe qui domine l'État, qui domine l'ensemble de la société, et non pas des forces économiques néolibérales qui sont aux commandes. Mais Alors, moi, je comprends tout à fait ce que vous dites par là, et je suis d'accord. Mais sauf que j'appelle pas vraiment ça l'État, en fait. C'est-à-dire que c'est la structure bureaucratique et également les forces de l'ordre. Mais c'est pas ce qui caractérise l'État. Ce qui caractérise l'État, c'est sa souveraineté. Et c'est-à-dire avant l'État moderne, il y avait des tas de structures. Je sais pas moi, l'Empire chinois avait une structure bureaucratique, un monopole de la force. C'était pas un État. Ce qui caractérise l'État en Europe, c'est le concept juridique de souveraineté et le fait d'ouvrir politiquement tous les sujets à partir du moment où on estime qu'il y a un intérêt public à le faire et donc de politiser la société par la souveraineté. Et quand on fait comme vous, sur ce bouquin, en assimilant l'État juste à sa structure bureaucratique et aux forces de l'ordre, ça nous fait pas comprendre ce que vous dites pourtant en conclusion, à savoir quand un pays n'a pas son indépendance, eh bien il n'y a plus de politique. Eh bien, quand un État n'a plus qu'une structure bureaucratique...
Vous ne seriez pas un peu chevet de mantise sur les bords?
Non, quand j'ai besoin de rien, je peux compter sur chevènement. Donc du coup, j'ai compris que je ne pouvais pas être chevènement.
Alors, je pense que c'est le débat fondamental. C'est-à-dire que l'État est fondamentalement ambivalent, de toute façon. L'État est violence et l'État est nécessaire à la société. C'est-à-dire, c'est comme la monnaie, d'ailleurs. Il y a une sorte d'ambivalence de la monnaie, il y a une ambivalence de l'État. Il faut un État... Il faut un ordre public. Il y a l'État hobbesien, l'ordre public. Il y a quand même... et il y a, je dirais, qu'il y a une situation particulière de l'État en France dans les représentations collectives. Donc il y a d'abord cette idée si commune que, et peut-être pas fausse, que l'État a fabriqué la nation. Mais souvent, l'État fabrique souvent la nation par conquête, etc. Puis, il y a une vision, en fait, extrêmement positive de l'État, à la fois parce que l'État a fabriqué la nation, réuni le territoire, et les gens en arrivent même à avoir de la tendresse pour Louis XIV. Pourquoi pas, si on veut. Et puis, il y a l'État social. Il y a l'État social d'après-guerre. Donc, je pense que l'important, au stade actuel, c'est d'être à jour. C'est-à-dire que, je ne vais pas vous dire que l'État sert à rien. Et je dis d'ailleurs très, très, très clairement dans le livre que si les Français ont le choix entre l'anarchie et l'État obésien qui maintient l'ordre, ils prendront l'État obésien. Et c'est pour ça qu'il y a des risques de coup d'État, en fait. Parce qu'une société a besoin d'ordre et a besoin d'un État. Donc oui, je suis capable de dire des choses nuancées. Mais je dis qu'il faut faire très attention et que l'urgence actuellement en France, c'est que comme tout le monde est tellement fixé sur le néolibéralisme associé à un anti-américanisme, alors que les Américains sont les seuls qui pourraient nous aider à nous sortir de ce perdier, la priorité, c'est d'être capable de voir que l'État actuellement en France devient autre chose et dérape dans certaines de ses fonctions. C'est-à-dire qu'on a... avant, on avait un État qui était sous contrôle politique constitutionnel avec une alternance des partis. L'explosion des partis politiques, de gauche et de droite, ça a été... C'est ce que je reprends à Marx, du 18 Brumaire. C'est pas exactement ça, mais ça ressemble. C'est l'autonomisation de l'État. Et donc, maintenant, on a un État qui est dirigé par une caste qui n'est plus sous contrôle politique. L'explosion des partis, tout le monde trouvait ça vachement intéressant et nouveau, mais ça veut dire que les hauts fonctionnaires, qui avant faisaient semblant d'être socialistes, semblant d'être giscardiens, maintenant, ils gouvernent pour eux-mêmes. C'est ça la signification de Macron. Et ce qu'on ne voit pas, c'est que c'est là qu'il faut... J'ai tout un chapitre, enfin, ou une introduction sur... un peu l'irrationnel des classes supérieures dans l'histoire. Ça m'était venu dans une... Un type avait posé une question à Sciences Po. Il avait l'air de penser que les gens du commun étaient irrationnels et les gens qui nous gouvernent, rationnels. Et je lui disais, non, mais c'est le contraire. Les gens du commun, ils doivent gagner leur vie, équilibrer leurs comptes, payer leurs impôts. Ils sont dans une rationalité nécessaire. Hein ? Les gens, quand ils sont en haut, quand ils ont du pouvoir, quand ils ont trop de fric, etc., ils ont l'esprit libre pour imaginer toutes sortes de choses. Alors ça peut être sympa, ça peut être le mécénat des Médicis, ça peut être le christianisme dans certaines phases de l'Empire romain. Le plus souvent, c'est des délires assez menaçants. Et là, je pense que ce qui est en train de se passer en France, et c'est là qu'est l'urgence, l'urgence, c'est de voir qu'on a une caste dirigeante qui est en train de perdre les pédales. Je suis désolé, le comportement de Macron n'est pas normal. Le comportement de Benalla n'est pas normal. La suppression des retraites, parce qu'on nous dit retraite universelle à point. Alors, universelle, pas question. Donc là, je vous relate les phases de ma réflexion sur la retraite universelle. Alors, d'abord, le mot universel me défrisait, parce que c'est beau, etc. Donc j'ai commencé... Herder était dans tous ses états, a parlé de Gleichschaltung, concept national-socialiste évoquant la mise au pas de la société et sa synchronisation. Ensuite, je me suis dit, c'est pas assez précis, et comme on ne sait pas où on va, je préfère penser en termes de minimum vieillesse pour tous. Et puis maintenant qu'on en arrive au stade où l'Assemblée s'apprête à voter une loi qui n'arrive même pas à définir ce que sont les retraites, le seul truc dont on est certain, c'est que les retraites vont être supprimées. Donc on est confronté à un État qui s'apprête à supprimer le système de retraite sans savoir ce qu'il va mettre à la place. Et donc on a un État qui est une sorte de liberté folle, et l'urgence est ça. Et on a été, et on est un peu désarmé. Moi, je suis pour l'État social, évidemment. Au début, j'aimais bien Chevènement. Mais ce qu'on doit être capable de concevoir, c'est l'idée que dans certaines circonstances, l'État devient autonome et est capable de se, je dirais, retourner contre la société. Et même dans le cas de la France, dans un contexte européiste, on a un État qui se retourne contre la nation. C'est ça la priorité. Ensuite, on pourra reparler de toutes les fonctions utiles de l'État, de reconquête d'un État, et d'un État dont qui nous permet de faire des choses utiles dans le domaine économique, etc. Vous voyez, mais la priorité, c'est de faire comprendre aux gens maintenant que le problème numéro un de la France, ça n'est pas un capitalisme sauvage. C'est un État qui devient cinglé. Vous voyez, c'est la priorité, c'est tout. Mais ce n'est pas conceptuel. Peut-être c'est juste de l'empirisme anglo-saxon, mais c'est très efficace. Vous voyez, c'est juste l'identification de la menace. Hein, c'est tout. Voilà.
Merci beaucoup, Emmanuel Todd. Et merci à toutes et à tous. Vous allez pouvoir...
Oui. Sur l'État, j'ai un dernier message à délivrer, ça va être assez important quand même. C'est l'Assemblée s'apprête à voter cette réforme sur les retraites. Je ne peux pas imaginer qu'une loi postulant ou renvoyant à plus tard la définition d'un indicateur définissant le niveau des retraites, surtout après ce que j'ai dit sur l'indépendance d'esprit de l'INSEE, je ne peux pas imaginer, et d'ailleurs le Conseil constitutionnel a déjà évoqué des choses qui montrent qu'on se déplace sur les limites de la constitutionnalité, je pense que cette loi sera anticonstitutionnelle. Je pense que dans un discours où on nous dit « mais le président a été élu, l'Assemblée a été élue », il est important de se rappeler que la Constitution est au-dessus du Parlement et au-dessus du président. Et que si le Parlement vote une loi anticonstitutionnelle, automatiquement, le mandat des députés qui l'ont voté est invalidé. Et ça vaut pour le Premier ministre, et ça vaut... pour le président de la République. Donc je vous rappelle qu'en cas de vacance institutionnelle, c'est le président du Sénat qui doit se substituer au président. Et comme vous voyez, je suis un modéré.
Merci encore. deux petites choses. Vous allez pouvoir retrouver Emmanuel Todt dans le hall de Pierre Vive sur le stand de la librairie La Cavale. Il y signera son livre « Les luttes de classe en France au XXIe siècle » et l'annonce de la prochaine rencontre le 3 mars. On va vraiment changer d'univers puisqu'on reçoit deux hellénistes, Hélène Monsacré et Pierre Judet de Lacombe, qui viendront présenter une vaste entreprise éditoriale, celle de l'édition de tout Homer, l'Iliade, l'Odyssée, mais aussi tout le reste, tout ce qu'on a prêté à ce groupe d'Aed. Et ça sera donc le 3 mars et ça sera au Théâtre d'Eau à 20h. Très bonne fin de soirée.